Ce qui est sûr, c'est que le catering, c'est une restauration tout à fait particulière.
Grosse caisse, caisse claire.
Ah, Chris, belle Chris, bravo.
C'est pas du rock, ça. C'est pas ça, le rock.
Yaka Nakamura.
C'est ça, le rock.
Con, con, con.
C'était donc ça, tout ce tintouin.
Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam.
Bonjour à tous et bienvenue au catering, les amis. Au menu, aujourd'hui, nos dernières découvertes musicales pour cette deuxième émission de Au Catering. On n'oublie pas évidemment la seule règle à table, ne parler que de morceaux, d'albums ou de tout autre support musical sorti il y a moins d'un an. La seconde règle, tous les types de musique sont acceptés, sauf le reggae, évidemment. La troisième règle, on ne met pas les coudes sur la table. Et évidemment, la dernière règle, il n'y a aucune règle. J'ai déjà envie de vous divulgâcher un petit peu le fil conducteur de l'émission. On va parler aujourd'hui 100% d'artistes issus de la francophonie. Voilà, n'y voyez aucun travail ou la moindre anticipation de notre part, c'est un pur hasard.
La musique, c'est la rencontre, l'amour, l'échange, le partage, le bonheur d'être ensemble.
Aujourd'hui, je suis accompagné du merveilleux Corentin. Bonjour Corentin.
Bonjour Simon, merci de me décrire comme ça.
À côté de toi, il y a le fabuleux Steven. Bonjour
merci,
Steven.
Si, merci Simon, c'est un peu lèche-cul tout ça.
complètement. Et de l'incroyable Léo.
Ah bonjour, oui, c'est vrai qu'on a vécu quand même quelques années en coloc, donc c'est bon.
C'est bon, j'ai le droit d'être lèche-cul.
Je veux rien savoir sur votre coloc.
J'espère que tout le monde va bien.
Oui,
autour de
oui,
la table.
Carrément, très bien.
Très content de pouvoir lancer cette deuxième épisode de d'Ocatring tous ensemble. Et je vous propose de commencer rapidement et de lancer directement Steven sur sa. Quelle est ta petite pépite musicale du moment? Dis-nous tout.
Eh bien, c'est un artiste qui s'appelle Sans Nom. S-A-N tiret du 6 Nom. N-O-M.
Tiret du 6, terrible.
Important. Donc, il est originaire de Reims. Comme tu l'as dit, on parle d'artiste francophone. J'en ai entendu parler une première fois par un tourneur que je connaissais plutôt pas trop mal. Et une deuxième fois. En l'ayant vu dans un article, je ne l'avais toujours pas écouté. Et il s'avère qu'en ce moment, je fais des ateliers avec des lycéens et que dans les discussions entre un Oui Renoir, un Damso, un Gala et un Johnny Hallyday, ils ont sorti Sans Nom. Oui, en vrai, les lycéens écoutent beaucoup Gala et Johnny Hallyday.
Oui,
assez étonnant.
C'est ça qui m'a choqué.
Mais c'est pas choquant. Enfin, au début, j'étais choqué, puis après, je me suis habitué.
On est pas si étonnant, je pense.
Donc voilà, ils ont sorti un Sans Nom, donc que je réentendais pour la troisième fois sans avoir encore écouté. Donc j'ai écouté avec eux et je me suis dit, bah, grave, dans le milieu de panel de ce que je vous ai sorti tout à l'heure, c'était quand même plutôt pas mal, ça ressortait du lot. Donc j'ai pris le temps de réécouter vraiment, vraiment en détail. Il a sorti un album là en novembre 2022 qui s'appelle Silence. Donc c'est un garçon qui nous vient pas du rap pur et dur tel qu'on peut l'entendre habituellement. Il a été vraiment biberonné à la chanson française, Higelin, Gainsbourg. Il a été aussi pas mal friand de musique classique qu'il aimait pas du tout au début, mais il s'est dit tiens je vais tenter. Il a creusé, puis finalement il s'est pris au jeu, il a trouvé ça chouette. Il a évidemment écouté énormément de Pink Floyd grâce à son papa, je suppose, il y a des chances, en tout cas moi c'était mon cas. Et il a décortiqué un peu tous ces styles là pour essayer de prendre plaisir un peu à les imiter, au piano, à la guitare, parce qu'il est guitariste quand même de prime abord. Finalement, ce n'est pas forcément l'écriture musicale, la production qui l'a botté, mais vraiment l'écriture de texte. Et vraiment, ce qui l'a porté vers le rap, c'est quand il a découvert Alkpot et Lino, qui lui ont appris le flow, qui lui ont appris la rime. Il se replonge après dans du NTM et du IAM pour voir les bases, l'histoire du rap français. Il déconstruit, il digère et il arrive à expérimenter petit à petit avec tout ce qu'il a pu entendre avant. Maintenant, il est accompagné pour les productions, c'est pas lui qui produit. Il garde toujours vraiment son idée en tête. Il arrive à donner vraiment sens à ce qu'il veut faire. Ça se sent vraiment dans l'album. Alors, c'est bourré de références culturelles dans la plupart des textes. Il y a des bons bangers, il y a des passages hyper intimes, il y a du beat, il y a des super guitares, il y a des morceaux de piano comme celui qu'on va entendre tout à l'heure qui est très très beau. Il y a de l'humour, beaucoup d'humour, un peu de politique, beaucoup de cynisme. Bref, un guitariste qui est devenu rappeur, en gros c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus commun, mais quand c'est bien fait, c'est pas rien, surtout comme si moi, on a chopé le train du rap en marche.
L'espoir fait vivre, trop y croire. Tu, mais on commence à mourir quand on y croit. Plus en Dieu, en l'amour, au bonheur s'il est quelque part. L'espoir fait vivre, trop y croire. Tue, mais on commence à mourir quand on y croit. Plus en Dieu, en l'amour, au bonheur s'il est quelque part. Je vais être heureux seul ou avec les hommes, je m'en tape. Le bonheur c'est une chasse au trésor sans carte. C'est pas où tu t'aventures, tu connais pas les passages. Tu peux avoir l'impression de le trouver, mais ça se trouve c'est pas ça. Donc tu continues à chercher. Parce que le bonheur, ça n'existe pas, c'est juste chercher le bonheur. C'est pas le sens de l'honneur, c'est pas le déshonneur. C'est les deux à la fois, c'est des œufs à la poêle. Quand y'a plus que ça dans le frigo, quand t'as fini de taffer. Et que c'est meilleur qu'un plat cher, car c'est toi qui l'as fait. C'est un on reste ami qui t'évite une relation toxique. C'est un non qui t'évite une chaude puce. C'est un réveil raté qui rattrape ton sommeil. Un secret gardé pour pas trop qu'on s'y mêle. C'est ne rien idéaliser pour garder le crâne en forme. C'est des rêves pas réalisés pour en avoir encore. C'est se bouger le cul pour réapprécier son divan. C'est la bouteille fermée qu'a sauvé ton dimanche. C'est une relation qui dure sans être ensemble tous les deux soirs. Apprendre à se manquer, c'est être toujours content de se voir. C'est kiffer ta vie comme si c'était chaque fois la dernière de tes aubes. C'est assumer ses vices avant d'essayer de comprendre ceux des autres. C'est un regard dans le métro qui n'aboutira jamais. C'est apprendre à avoir tort, à pas toujours s'acharner. C'est passer une bonne journée alors que tu venais juste pour des pannes. C'est pas avoir ce que tu veux pour te rendre compte que t'en voulais pas. C'est apprécier la lenteur quand le monde va trop vite. C'est vivre sa vie à l'improviste. C'est ne jamais employer le mot business. C'est pleurer de joie, c'est rire de tristesse. C'est de pas encore connaître Aragon. C'est une coupure internet qui va te faire lire un livre à la con. C'est se rendre compte qu'on a changé d'avis sans avoir honte. C'est accepter de vivre sans certitude à la ronde. C'est faire pareil différemment, c'est prendre sa vie à l'octave. C'est arrêter de partir en vacances comme on part au taf. C'est croire en ce qui nous fait rire, tant pis si ça les choque. C'est faire l'amour dans une église, c'est prier dans un sex shop. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête, elle te fera chanter. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. C'est refuser les directives, c'est dire non. Et inculquer ça au petit dès le biberon. C'est arrêter de dire que c'était mieux avant. Même si c'est vrai, l'important c'est que ce soit mieux après. C'est cesser de vouloir tout comprendre et se laisser un peu aller à l'imaginaire. C'est se regarder dans le miroir, se demander ce qu'on branle, mais quand même vouloir vivre tout cet tas de chimères. C'est arrêter d'être sympathique pour sa conscience. Si vous croyez en Dieu, croyez surtout en sa confiance. C'est la maladresse d'une belle femme, l'humilité d'un mec chaud. Si vous croyez pas en Dieu, croyez surtout en quelque chose. C'est envoyer chier tout ce qui nous ravit plus. C'est tuer la routine de trois balles dans les habitudes. C'est arrêter de surveiller une personne de peur que le malheur te frappe. Si elle veut te tromper, sois sûr qu'elle le fera. C'est s'avouer que le temps c'est jamais trop long, mais que ça le serait si on faisait pas l'erreur. C'est dire que l'alcool c'est la pire chose au monde, mais savoir que c'est aussi la meilleure. C'est se lancer dans une zone à risque. On se sent plus vivant dans la tempête. C'est sourire en sachant que c'est pas si beau la vie. Se dire qu'en fait on n'a plus trop d'amis. C'est arrêter de se calquer sur un exemple et envoyer chier ce qui nous replace. C'est aller se coucher tôt le 31 décembre et faire le nouvel an le 12 mars. C'est rater, c'est perdre, c'est provoquer le seum. C'est apprendre à pas suivre les conseils, pose votre aisselle. C'est des paris sur l'avenir même si t'es peu de vin. Mais les plaisirs trop faciles sont la grève de demain. C'est arrêter de tout prévoir et se mouiller en cadavère. C'est accepter la solitude pour refuser la paresse. C'est arrêter de croire que ça va changer, on n'a pas fait de vœux pour naître. C'est arrêter de faire semblant d'être heureux pour l'être. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête, elle te fera chanter. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Elle te fera chanter. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Elle te fera chanter. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Elle te fera chanter. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Elle te fera chanter. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Elle te fera chanter. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête. Laisse-toi guider par la voix dans ta tête.
Et voilà, c'était Amingja de Sans Nom. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que ce soit des lycéens qui me l'ont fait découvrir au milieu d'un panel d'artistes très gros, pour la plupart, pas du tout d'actualité, et qu'il y en ait qui commencent à gratter, et qu'il soit plusieurs dans le groupe à dire « Ah, toi aussi, tu connais !» Et en vrai, ça m'a fait plutôt bien plaisir, parce que c'est pas le genre de truc que j'écoute habituellement.
Mais c'est vrai que quand c'est toi qui a transmis ce morceau et cet artiste... J'étais un peu surpris, venant de toi.
j'aime bien surprendre, je crois.
J'étais agréablement surpris, parce que je connaissais pas du tout. Et franchement, j'ai écouté, je vais continuer à écouter. Je pense que je vais bien suivre. On sent. Moi, j'ai trouvé des petits côtés à la Kabadzi, un peu, sur certains morceaux, pas tant dans l'instru, mais plus dans les textes et un certain cynisme et ce regard sur la société, quoi.
Complètement, ouais. Je suis un peu étonné parce que j'ai écouté quelques morceaux avant pour préparer l'émission et je suis encore surpris par ce morceau. Je trouve que ça passe d'un style à l'autre. C'est hyper varié.
Mmh. Bah, tout l'album est hyper varié, quoi.
J'avais.
Tu sais, il y a certains morceaux, on était quand même à la limite du reggae, ce qui fait que j'ai un peu hésité. Hein. En vrai, j'ai clairement.
Mais non, ouais, c'est hyper varié. Enfin, là, tu sais, c'est un espèce de banger, même qu'on pourrait comparer presque à aller chercher vers bagarre, ultra dense et tout. Après, du coup, moi, j'aime bien. Je pense que je vais aller réécouter parce que je pense que c'est quand même un truc qui pourrait paraître simple. Mais en fait, ça l'est pas.
Clairement pas.
Vraiment, faut aller creuser vraiment parce que j'ai deux écoutes de l'album maxi et un peu comme ça par-ci par-là sur la dernière semaine. Je connaissais pas du tout avant et il y a des trucs chouettes, il y a des trucs, je suis là, bon, ça reste. C'est pas très sympa, mais pour moi c'est sympa, j'aime bien la soupe, mais c'est un peu de la soupe. Mais il y a de la très bonne soupe et là je pense que c'est de la très bonne soupe. Faut juste
c'est de la soupe bien faite.
Ouais, c'est de la soupe bien faite,
un peu épicée, ouais, tu vois, juste ça là où
travaille.
Il faut, ça marche.
Ça se travaille, ça se prend à cœur, je pense. Essayer ces ans, c'est assez cool, mais faut creuser, je pense.
C'est son premier projet, tu l'as peut-être dit dans.
Non, il avait c'est fait depuis 2016, donc Silence, ça, c'est le deuxième album. Il y a une version live aussi qui est sortie là il y a quelques semaines. Il avait sorti plusieurs mixtapes depuis 2016, 2016, 2017, 2019, 2020, et puis l'album 2022. Donc non, il y a quand même eu, il y a du taf, il est bien accompagné aussi.
Okay.
Donc il y a moyen qu'on l'entende clairement parler dans les mois, années à venir. Et puis je pense que dans la scène rap, dans ce qui se fait de chouette que les jeunes peuvent écouter et qui peut aussi raccrocher autre chose que les jeunes. Parce que c'est aussi un peu l'idée qui me plaît plutôt bien. On est sur des trucs expérimentaux un tout petit peu, mais pas trop. Et on est sur du texte qui est bien écrit. Et on arrive à aller. Et le live est chouette, pour le coup.
Bon. Ok.
Bien à suivre.
Tout à fait.
Et bien, les amis, j'ai l'impression que nous sommes unanimes pour mettre du respect sur son nom.
Ah oui.
Je vais toucher l'anti-accord absolu. Vous entendez ? Absolu ! La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe ?
Merci Steven pour cette superbe découverte. Corentin ?
Oui.
Je te passe le mic.
Mais tout à fait, passe-moi le mic. Alors moi, je vais vous parler du coup de Inigo Montoya. Donc c'est un groupe français composé de 4 musiciens. Donc avec un premier EP qui est sorti en 2019. Et donc après toutes ces présentations très formelles, je vais vous parler un peu de l'origine du nom du groupe. Car je trouve que ça nous en dit quand même pas mal sur le style de musique qu'ils font. Donc Inigo Montoya, c'est le nom d'un personnage fictif du roman fantastique de William Goldman, La Princesse Bride, ou The Princess Bride, sorti en 1973. Donc alors là, on passe du catering à la bibliothèque. Maintenant, je m'appelle Augustin Trapenard. Donc ce roman se passe donc dans un monde fantastique où une princesse est enlevée par un trio de hors-la-loi dont fait partie Inigo Montoya, capitaine espagnol expert en escrime. Donc au fond, Inigo Montoya, c'est un peu le boozer de la princesse Peach. Et dans ce monde fantastique, Inigo Montoya est aussi à la recherche de l'homme à 6 doigts qui a tué son père. Un peu comme Batman qui recherche le bandit qui a tué ses parents, au fond. Enfin bref, ce que j'en tire de cette référence, c'est un univers fantastique, un univers plein d'aventures et un univers rempli de poésie. Et bah, ça se ressent dans la musique du groupe. Tantôt calme et poétique, de paroles pleines de sentiments et de douceur, tantôt rempli de rythmes et d'électro, de distorsions, de paroles criées. Le groupe a pendant 3 ans sorti de nombreux EP et singles, mais jamais d'albums. Comme ils l'ont expliqué, pour eux c'est difficile de, je cite, « trouver la cohérence sur une douzaine de morceaux, trouver les titres qui se suivent et s'agencent parfaitement ». Et je trouve ça très intéressant comme réflexion de ne pas vouloir forcément étirer une recette jusqu'à plus en pouvoir. Et au final, bah, ils ont sorti leur premier album, ou LP, on ne sait pas trop, en décembre dernier, qui se nomme Inig LP 01. Donc ça fait très long de fichier d'ordi, mais au moins c'est clair, comme leur EP d'ailleurs qu'ils appelaient Inig EP 1, Inig EP 2, et ainsi de suite. Pas très original, mais très efficace. Donc pour en revenir à l'album, on ressent que certains morceaux n'ont pas été écrits exprès, mais ce sont des compos plus anciennes, il y a des réminiscences de leur EP, et je le ressens un peu comme un résumé de ces 4 dernières années, et je trouve ça très cool. Donc je vous incite aussi à aller voir les visuels de leur EP, et du coup de leur album, c'est assez original, et je trouve que c'est pas mal, ça donne un petit plus. Donc bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas avec une seule chanson que je pourrais vous faire découvrir tout le spectre musical d'Inigo Montoya, donc je vous incite à aller écouter toute leur discographie. Au passage, ils ont mis en musique un chant féministe d'Amérique du Sud avec des interventions de Simone de Beauvoir, et c'est incroyable, comme dirait Kabaji. Allez, je vous laisse avec Camera Obscura, tiré du dernier album d'Inigo Montoya, Inig LP 01.
flûte de berger. Une fois de plus, je chante sous la grêle à bout de souffle. J'ai beau changer de poste de combat, mes mains à bout de bras cèdent et se taisent malgré mon chant d'un hymne à la joie. Est-ce grave? Échec ou simple mirage? La bouée de secours est-elle pour mes peurs? Ou celui qui se noie, solitaire le dimanche, cannibale pour les vacances.
Donc ça, voici Camera Obscura, du coup, d'Inigo Montoya. Donc c'est voilà, un morceau que j'aime bien de leur dernier album. Et voilà, donc qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces écoutes?
Bah, tu m'as pas lancé dessus, mais c'est vrai que du coup, à l'écoute, moi, ce que j'avais écouté, c'était pas comme ça. Mais c'est quand même très bien.
C'est là où tu vois du coup tout
le spectre,
tout l'univers et tout le fantastique, quoi.
C'est vrai que du coup, ce que j'avais écouté, c'était vraiment plus proche Flavien Berger, toute une nouvelle scène électropop chantée, mais en même temps, on peut jouer dans un technival,
peu,
quoi.
Un peu, ce côté poétique avec quand même des...
Complètement.
Ouais.
Il y a le côté médiéval, je trouvé qu'il ressortait énormément. Là,
ouais, chevaleresque.
Ouais,
chevaleresque.
Je sais pas si c'est chevaleresque que tu as. Tu sais, tu as un Bah, Obscura, du coup, t'as le côté obscur du truc, très. Je sais pas, c'est bizarre, on a l'impression d'être dans une vieille série années 60, un truc très. Alors que c'est esthétiquement pas du tout.
Un truc fantasy.
Ouais, un truc fantasy.
Ouais,
un Dark Crystal, c'est un peu ça.
Il y a une chanson, album qui s'appelle Totem avec une petite flûte. Alors pour le coup, ça c'est médiéval. Comme tu l'aimes.
Ou alors, tu sais, les Krautrock années 70, t'as ce truc-là, tu sais, les cannes avec la flûte de Pan, t'as ça. C'est bon, j'ai placé Krautrock. 15 points.
C'est fait. J'ai trop drôle style.
Le bingo.
Bien joué. Merci Corentin pour cette magnifique découverte. On arrive à l'heure de la petite interlude dans ce désormais cultissime au catering. Nous allons passer au sujet d'actualité. On avait aujourd'hui envie de parler un petit peu de l'inflation, ce gros mot qu'on entend à longueur de multiples reprises en ce moment, voilà, etc. Évidemment, on va le tourner autour de la musique et plus particulièrement des cachets d'artistes. Donc les cachets d'artistes, c'est évidemment le prix qu'on paye certains artistes pour venir jouer dans une salle de concert, dans un festival, etc. L'inflation, ça fait un moment qu'on en parle dans le monde des musiques actuelles. Et voilà, l'idée, c'était de faire un petit tour de table, qu'on en discute, qu'on voit pourquoi, comment, est-ce qu'on est d'accord avec tout ça?
On n'est pas d'accord.
On n'est pas d'accord avec tout ça, mais ça a l'air de faire partie du truc actuel.
Donc, l'inflation, elle a toujours existé. Il y a toujours une inflation. Après, c'est clairement empiré depuis le Covid.
Tu penses que ça n'a pas commencé avant?
Si, ça a commencé avant. Merci toi, quelle relance.
je t'en prie.
Oui, non, ça a commencé avant, mais avant le Covid, il y avait déjà les inflations, il y avait déjà des choses, mais ça a exacerbé un peu tout ce truc-là. Il y a eu la fin du disque a fait que les artistes se sont retournés principalement sur le live. Il y a l'essor des festivals et la taille des festivals qui a commencé à grossir. Il y a la recherche d'un public, du public de tête d'affiche pour aller se déplacer et choisir un festival plutôt qu'un autre, donc faut sortir un peu sa bonne épingle du jeu. Donc il y a une concurrence exacerbée à l'international qui joue.
Et dans les je voulais revenir sur le nombre de festivals comme tu disais, mais il y a aussi des on va dire que le tissu des festivals en France est quand même a démarré avec beaucoup d'associatifs et d'associations qui sont créés dans les petits bleds machin et qui ont fait leur festival. Et il y a aussi eu un ajout depuis quelques temps d'entreprises, alors que ce soit du milieu de la musique déjà avec Live Nation, AEG ou ce genre de choses.
et aussi des je pense enfin tu vois à Radar par exemple qui est un peu le tremplin de DSP, le Ricard Festival, enfin toi il y a eu des aussi des entreprises qui s'en sont servies pour un côté
business,
pour un côté ouais business vitrine marketing et du coup bah elles arrivent déjà avec des moyens des gros moyens d'un coup
des moyens d'entreprise quoi
ouais c'est ça où ouais. Leur but c'est pas de d'être rentable de pouvoir survivre l'année d'après en fait
oui ça il y a pas de
bah, ils s'en foutent c'est un investissement c'est ça coûte moins cher qu'une campagne de com hein.
Ouais bah oui non mais oui.
Et il y a ce truc que tu disais sur l'international, moi je trouve qu'il y a quand même cette... Après, on est en France, donc bon. Il y a ce truc quand même très français, où je trouve qu'il y a une belle escalade dans le milieu français.
Bah, en vrai, c'est la même chose à l'international.
Oui, c'est vrai
une tête d'affiche internationale, maintenant, oui, c'est 300, 400, voire 1 million, oui, facilement.
C'est vrai qu'en tête d'affiche, c'est vrai que là, je le vois moins, personnellement. mais c'est vrai que oui, peut-être sur le haut plateau... c'est vraiment la guerre, quoi.
Mais ce qui fait que, en gros, ça, cette augmentation des cachets qui est exponentielle, ça a un vrai impact finalement sur l'écosystème de musique actuelle parce qu'on se retrouve avec des festivals, entre autres, qui ont les mêmes programmations. Mmh. Parce qu'en vrai, la capacité d'investissement de chaque festival revient à peu près plus ou moins dans la même fourchette. Donc, tu vois, ce qu'ils mettent habituellement. Les budgets de prog ont un peu augmenté, mais pas. Oui. Tant que ça. Donc pour en gros augmenter un budget de programmation, tu fais quoi? Bah tu rognes. Et tu rognes sur quoi? Sur les artistes découvertes. Donc au final, tu te retrouves avec des festivals avec
les mêmes prog
et les têtes d'affiche et de moins en moins de découvertes. Mais c'est aussi, mais sauf que là maintenant, t'es rendu au point de t'augmenter le prix du billet. Tu peux pas l'augmenter non plus des masses parce que des masses. Il y en a qui font des masses.
Faut remplir.
Mais faut quand même remplir. Donc en fait, ton équilibre, il se retrouve à bon équilibre entre tête d'affiche, prix du billet et qu'est-ce qui pâtit dessous? C'est toute la découverte qui est la raison d'être des festivals quand même à la base et qui maintenant représente pour la plupart des festivals, 10, 15, 20% grand max de la programmation.
Et la découverte qui coûte aussi plus cher parce qu'elle est découverte plus vite, que ce soit par les programmateurs ou par les tourneurs, ou par etc. Du coup, vendue plus vite, plus cher parce que gestion de... Bah, on doit payer les gens, et ce qui est tout à fait normal en fait. Sauf que du coup, ça se rôde pas. Donc ça crée aussi une découverte qui n'est pas prête. Et en fait, du coup, ça crée moins d'envie de découverte. Et du coup, ça crée plus en plus que de la tête d'affiche. Et en fait, c'est vraiment un serpent qui se mange la queue, quoi. Ouais. Et en fait, le public n'est pas prêt non plus à avoir de la découverte parce qu'il sait qu'elle ne va pas être prête. Et en fait, et puis du coup, ça tue un système, quoi.
La découverte qui se fait via les réseaux sociaux. Où, oui, en fait, plus. Maintenant,
TikTok,
quand tu vois un artiste, tant de vues, tant d'abonnés sur Instagram, TikTok, et du coup,
complètement.
Il peut te remplir une salle sans jamais avoir fait de concert, mais parce qu'il a 10 sons sur TikTok.
C'est ça, c'est
il y en a pas mal des comme ça.
Hein. Ouais. c'est une bonne chose aussi, les réseaux sociaux, ça permet de découvrir des artistes et tout ça, mais après, c'est vrai qu'il y a la construction, un live et faire une vidéo, c'est pas non plus.
Mais c'est ça, il y a la différence entre le réseau social où ça te permet de diffuser ce que tu fais de façon qualitative, disons, comme un artiste a fait. En fait, c'est faut vraiment que ça marche ensemble que le fait de tourner, en fait. Moi, il y a vraiment ce truc où j'ai de plus en plus de mal à me dire, quand je vois des artistes sur les internets, enfin, que ce soit sur Instagram, parce que je travaille beaucoup avec ça et je vis beaucoup avec ça. Franchement, Instagram, c'est vraiment un super réseau social. Mais en fait, j'ai besoin de voir aussi...
Ils t'ont payé combien ?
Ouais, peut-être, désolé. Non, mais voilà, mais c'est ma génération.
TikTok, Twitter, Facebook.
Ouais, bam, on a tout placé. Mais du coup, il y a vraiment ce truc où j'ai besoin de voir que ça marche en live. En vrai live dans une salle de concert avec du public. Et ça, en fait, de plus en plus, surtout dans certains styles musicaux.
Le rap.
C'est triste à dire, mais le rap. Parce que c'est aussi le style qui est le plus sur les réseaux sociaux et même médiatiquement parlant...
Oui,
propulsé
et que,
quoi.
Et puis que sur scène, c'est tu peux vite être tout seul avec un DJ quoi.
Oui, c'est ça. En termes de coût.
Majoritairement le cas.
Oui, mais faut tenir la scène tout seul.
Il y en a qui n'y arrivent pas parce que du coup, ça fait même pas un an qu'ils bossent et même pas un an qu'ils n'ont pas fait de concert et du coup, ils se retrouvent devant 300, 400, 600, 700 personnes. Blindé
alors
tout
que
temps, non, quoi.
Tenir une scène quand t'es guitare, basse, batterie, un chanteur, enfin à 4 déjà t'as de l'interaction entre les gens, ça peut être un peu...
Bah déjà t'as passé 6 mois dans ton garage quoi.
Oui.
Et c'est pas bien, vraiment c'est pas bien déjà quoi. Mais au moins t'as passé 6 mois dans ton garage et du coup tu t'es un peu confronté à ça. Après du coup tu vas jouer dans un bar parce que malgré tout c'est le bar d'à côté, et t'as tes copains qui viennent voir, ils te disent « Hey, super concert, merci !» Et là, tu fais, bon, ouais, d'accord, on va continuer à bosser. Mais tu vois, alors qu'il y a moins ce repérage, parce que c'est moins actuel aussi, peut-être. Tu vois, c'est peut-être aussi un truc de génération, on est en 2023. Voilà, il y a 10 ans, le rock était plus marqué. Maintenant, c'est le rap et c'est bien aussi parce qu'il en faut. Pendant des années, on l'a mis à la marge de la société. Maintenant, il est devant et c'est trop bien. Mais du coup, on met trop les artistes trop vite sur des gros plateaux, trop vite sur des grosses scènes et ça manque de préparation. Et ça, c'est souvent dommage.
En fait, il y a un encadrement qui arrive très vite. Et du coup, cet encadrement, faut le rémunérer, faut qu'il fasse ce qui est aussi normal. Quoi, mais...
Mais après, pour revenir sur la hausse des cachets, recentrer sur le débat de départ.
On les vit,
ce sera le prochain débat de la prochaine émission. En vrai, on en commence à avoir une bonne liste. Non, mais c'est plus où est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on change les choses. Alors, parce que va falloir sauver les festivals, mine de rien. Parce que sinon, on va se retrouver comment ? On va se retrouver avec des festivals qui vont avoir du mal à faire le plein parce qu'ils n'arriveront pas à avoir l'état d'affiche que les gens attendent. Donc, avec des gros festivals qui vont un peu scléroser le marché sur un peu tout ce qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on peut sauver ces festivals-là ? Malheureusement, c'est pas ces acteurs-là qui ont les clés entre les mains. C'est les gros et les producteurs qui ont les clés et les artistes eux-mêmes et qui sont aussi en train de se saborder eux-mêmes parce qu'ils sont en train de ne pas créer les artistes de demain qui vont trouver des scènes sur des petits festivals, sur des festivals de moyenne envergure, se roder justement. Donc en gros, il va falloir qu'ils arrêtent de couper la branche sur laquelle ils sont assis parce que sinon ça va mal se terminer.
Et il y a du coup cette industrie du festival, mais est-ce que du coup toute la partie média en fait partie aussi? Moi je pense que oui, un manque soit de
ce soit les médias
qui vont faire
radio ou les médias presse ou autres qui sont à l'origine de ça. À l'inverse, ils sont en perte d'écoute, ils sont en perte de lecture la plupart. Ils cherchent des modèles économiques qui se tiennent aussi. Malheureusement, on peut que ne taper que sur certains réseaux sociaux globalement. Excuse-moi, Instagram.
T'inquiète.
Non, mais pas que Instagram, mais TikTok ou autre. Ouais. C'est que c'est ces réseaux-là et c'est cette qui crée cette rapidité de consommation. Et je parlais tout à l'heure dans ma chronique de lycéen avec qui j'ai des ateliers en ce moment, où quand ils me parlent des artistes qu'ils écoutent, ce qui est assez impressionnant, ils ont le recul pour dire qu'ils vont écouter ça un an ou deux, mais après ils n'écouteront pas.
Oui, ils le savent en fait.
Par contre, Gala, Johnny Hallyday, ils écouteront toute leur vie.
Mais du coup, qu'est-ce qui fait que ces artistes qui sont des années 70, 80, 90, disons, soient restés dans le top?
Parce que c'est leurs parents qui leur ont fait écouter et que pour eux c'est la musique qui va rester, et que la musique qu'ils écoutent actuellement elle est destinée à leur âge, mais elle sera pas destinée à l'âge qu'ils auront dans 5 ans. Quoi.
Ouais, ça après c'est du coup, faut voir qui va rester de nos années quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une belle frange d'artistes que même nous on écoute dans plein de genres différents. Enfin, je sais pas que dans 10 ans, si j'écouterai toujours.
C'est la question insoluble. Qui est-ce qui va rester. Et c'est la question que je pose à ces lycéens-là. C'est en gros, quand j'en arrive là, c'est typiquement. Grosso modo, il y a une période, il y a eu le mouvement hippie, il y a eu tout le mouvement techno, les rave parties, tout ça. Ça va être quoi les années 2020 ?
Ça va être le rap.
Pour vous ? Le rap, c'était avant. Le rap, c'était 90.
C'est la K-pop,
C'est autre chose, Non, mais qu'est-ce qui va rester ? Il y a plein de trucs. Eux, ils me répondent plein de choses différentes. Il y en a, ils savent pas. On sait pas. En vrai, il y a toute cette question de genre qui se retrouve de plus en plus dans les artistes et qui peut être un mouvement qui peut émerger de plus en plus. Et c'est cool. On a vachement dévié sur ce débat quand même.
C'est toujours cool parce qu'on saura jamais quoi.
J'espère que nous on saura, mais dans 40 ans, on se dira il y a l'année 2020, en fait, c'est ça qui est sorti dans les livres d'histoire de la musique sociale.
On
quand
était
même.
Là.
C'était
on
ça
là,
quoi.
Ouais, mais tu vois, je me fais penser dans les années 80, il y a aussi des clips qui. Enfin, je pense que le clip peut aussi permettre de figer un artiste, qu'il y a des clips célèbres quoi. Genre Michael Jackson, il a fait des clips qui sont aussi liés à ses musiques et qui sont ancrés un peu dans la culture, dans la mémoire culturelle, un peu, tu vois.
Donc le clip serait vecteur.
Je pense que c'est un ajout, même. Ou même, tu vois, des concerts qui ont été célèbres. Enfin, je pense que tu as Johnny Hec qui est au Stade de France, qui sort de la main, là, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a aussi
Carrière en hélico.
Mais où, du coup, tu as des. Enfin, ça, c'est des marqueurs. Et qu'il n'y a peut-être plus aujourd'hui ou des grosses dates.
Il y a encore, parce que tu vois, la plupart des artistes qui font Bercy, ils font Bercy à perte financièrement, parce que ça coûte beaucoup trop cher, mais ils le font parce que c'est d'un point de vue marketing,
c'est
rentable.
Mais c'est plus rare, quoi.
Même dans le coup, tu vois,
des artistes qui font Bercy, t'en as toutes les semaines, quoi.
Ouais, toutes les semaines, ouais. Mais du coup, la plupart, ça leur coûte plus cher que ça ne leur apporte, quoi. Le coût de location de la salle, la technique, faut faire un gros show, faut que ça parle, faut qu'on dise qu'on a fait complet sur Bercy,
et du coup, avant, on a pris en tête d'affiche le festival. Du Bercy de Vald, il y a.
Bah, justement, ouais, je pense à lui, dans le classement, dans ce qu'on perd des thunes, Vald, il a perdu qu'avait une sur Bercy.
C'est un gros billet, ouais. Et du coup, le coût de son cachet.
Voilà, du coup, il fait des festivals pour rembourser son.
C'est un développement sur.
C'est fou, c'est le monde qui parlait de ça et qui expliquait justement le Bercy, c'est un investissement, quoi.
Bah,
tu peux pas te permettre de faire
les salles parisiennes, globalement. Enfin, les grosses salles parisiennes, c'est un investissement à différentes échelles d'artistes. Mais t'investis sur une salle, une location, tu perds de l'argent, mais tu donnes de la visibilité. Et après, ça permet aux artistes de dire bah, on a fait complet en tant de temps à telle salle. Du coup, ça fige un peu le cachet.
Quoi. Pour les festivals,
c'est ça.
Ou des clauses d'exclusivité aussi territoriales. On en parlait rapidement hors antenne tout à l'heure, mais ce qui fait aussi. Donc les clauses d'exclusivité, du coup, c'est évidemment quand on book un artiste sur son festival, c'est de, en montant un petit peu le tarif de l'achat du spectacle, dire ok, mais du coup, il jouera pas un mois autour, autour de 200 km, quoi, grosso modo.
Bah, c'est même des fois, c'est 6 mois, ça jouera pas en France, ça jouera pas 6 mois.
C'est en France, quoi.
C'est hallucinant. Ouais. Après, c'est antinomique à toute la... Les envies écologiques qu'on a et qu'on défend globalement de plus en plus sur les festivals, va falloir qu'on réfléchisse aussi à ces choses-là. C'est-à-dire que les artistes se déplacent pour une seule date dans un rayon de 3000 bornes. Donc les publics vont faire 2 à 3000 bornes pour se déplacer, pour aller les voir. Très clairement, c'est plus tenable. Non.
C'est pas bien.
Voilà, on va taper sur les doigts.
C'est pas bien.
Et je voulais juste dire, bah, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Et du coup, on parlait du monde. Qu'on fait un super sujet là-dessus et Télérama aussi sur YouTube, on fait un super sujet là-dessus. Si jamais il y en a qui veulent se renseigner
et
plus que ça.
Tsugi Magazine, on fait un très bon article sur justement l'inflation des cachets des festivals.
Et ma mère sur TikTok.
Il y a de l'info, faut suivre.
Merci à tous pour ce super sujet d'actualité. Merci à vous pour ce super sujet. Je crois que c'était à mon tour de présenter ma petite pépite, ma petite perle.
Que vas-tu nous présenter ce soir comme pépite ?
Merci Steven pour ce lancement. j'ai envie de vous parler d'un jeune auteur, compositeur, interprète, chanteur / rappeur français qui est né à Saint-Étienne en 1997. Jeune, me direz-vous ? Eh bien, figurez-vous que le Bougre a déjà sorti 3 albums et est sur le point de sortir son 4e. Et d'ailleurs, j'ai déjà envie de vous donner la parole, parce que j'ai très peu travaillé cette chronique,
pour être
tout à fait transparent.
On va t'aider.
Et donc, il a sorti 2 mixtapes et 1 album. J'avoue que je ne comprends pas la différence. Tu parlais de mixtape tout à l'heure, Steven.
Ah, je suis très très mauvais sur cette différence entre mixtape et album.
Bon, tu en as parlé un petit peu, Corentin aussi.
Pour moi, une mixtape, c'est justement, il n'y a pas de cohérence entre les morceaux.
Voilà.
Y avoir aussi pas mal de guests, enfin de featuring et tout ça.
C'est ça. Pareil, moi, c'est ma définition de la mixtape en différenciation sur l'album. L'album, tu vas y créer un lien. Un album, c'est souvent plus court aussi. C'est entre 10 et 12 morceaux, souvent. Et la mixtape, ça dépasse le 15. C'est souvent entre 17 et 20.
Okay.
Et y a vraiment zéro lien, plein de feats. Et ça balance du banger, quoi. Genre Alpha One, mixtape numéro 2, bam bam.
Et la mixtape, elle a apparu justement avec les home studios où tu produis à bloc, donc t'as énormément de contenu. Du coup, bah, t'as pas créé un projet, comme on l'appelle dans le rap maintenant, qui est cohérent. Et donc, du coup, tu testes des trucs sur la mixtape, quoi.
Et tu
ouvres
ton tiroir, tu prends les morceaux, tu les mets.
C'est ça.
Et voilà.
Eh bien, figurez-vous que mon album, mon artiste, j'ai envie de vous parler, a sorti 2 mixtapes où il y a aucun featuring, donc voilà, tout ce que vous venez de dire est...
On est faux
nul, globalement. Non, alors c'est un artiste qui est a priori plus issu du rap, mais qui a vachement d'influence de la musique classique, d'où son nom, Zayun Pavarotti, qui est une référence évidente. Et ça passe par le rock, la pop 60s, etc. Donc il a déjà un gros bagage avec pas mal d'inspiration musicale qui s'est forgée dès son adolescence. Donc comme je vous disais, il est sur le point de sortir son 4e album. qui est un petit peu un virage pour lui. Il en parle très bien, d'ailleurs, dans une interview avec le média Interlude, que je vous conseille. On parlait tout à l'heure de conseiller les articles de presse, etc. Pour être tout à fait transparent, je l'ai lu tout à l'heure pour préparer cette chronique. Et je vous conseille vraiment de le lire, il est vraiment super intéressant. Et il évoque justement un petit peu ce changement de direction pour lui sur ce projet, mais qui se fait un petit peu tout au fil du temps. Donc c'est un artiste qui ne nie pas son inspiration à des artistes comme Oasis notamment. C'est pas forcément vrai dans le morceau que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Vous allez voir, il y a quelque chose de vraiment très très entêtant. Je crois pas qu'il n'ait de frère. Je crois pas. Et je vous ai toujours pas dit qui c'était. J'essaie de faire un comment ?
Si.
Oui, vous le savez, mais les auditeurs ne le savent pas.
Si, tu l'as dit.
Non ?
Si.
T'as dit.
Zenyut Pavarotti, une référence à musique classique et tout ça.
Putain, je l'ai dit. J'ai raté tout mon effet de chronique.
Après, j'aurais peut-être pas dû le dire, les gens avaient peut-être oublié. Mais
du coup, oui, je l'ai pas dit, mais finalement, ma blague était complètement ratée. Merci pour votre écoute attentive, ça fait plaisir. vous allez voir, il y a quelque chose de vraiment très entêtant dans ces mélodies qui me touche énormément. Et à la fois, il y a des textes hyper poétiques, un peu de lover, un peu fleur bleue même. Mais on va pas se mentir, en ce moment, ça fait quand même un peu de bien d'avoir un peu de bienveillance, voilà, un petit peu d'amour, etc. Et ce que je trouve intéressant dans le parcours de Zedjun Pavarotti, du coup, c'est lui que je vais vous parler.
C'est
qu'on l'a longtemps considéré comme un rappeur, parce que sur tous ses premiers projets, il était seul en scène avec simplement un DJ derrière. Et là, ce nouvel album, il l'a vraiment pensé avec 3 ou 4 musiciens, je ne sais plus. Qui vont l'accompagner sur scène, et ça se sent déjà dans les prods. C'est vraiment, je trouve qu'il a sorti, pour l'instant il a sorti 3 singles issus du futur album qui va sortir. J'ai pas la date exacte de sortie, voilà. Mais je vais vous laisser écouter donc Zedjun Pavarotti et son morceau Ce que la lune éclaire.
C'est une très jolie soirée pour une très jolie fille qui s'appelle. Je ne réponds pas. C'est un vendredi soir dans un grand appartement et tu me parles, mais tu ne m'entends pas. L'air que tu respires pourrait me faire vivre, même au fond de l'océan. Je pourrais me mettre un autre si ça te fait. Faut-il devenir, dis-moi, et que faudrait-il dire pour que tu désires un jour m'embrasser? J'ai des millions de questions que je pourrais jamais poser si tu continues à si bien m'oublier. L'air que tu respires pourrait me faire vivre, même au fond de l'océan. Je pourrais me mettre un autre si ça te fait. Je ne sais rien de rien.
Voilà, c'était le merveilleux Adieun Pavarotti. Qu'en avez-vous pensé, messieurs?
Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Globalement, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai sur mes tableaux et j'ai jamais vraiment pris le temps d'écouter, grosso modo. Ça passe beaucoup, quand même pas mal en festival, en concert. Là, cet été, ça va pas mal tourner. Je le vois dans 15 jours, je crois, au Printemps de Bourges. Oui. Ça va me permettre de le voir en live, pour le coup. Donc ça, c'est cool. Après, moi, j'avoue que j'ai un peu du mal, c'est tout le temps de la tendance cloud rap, le truc très vaporeux, tout ça. Ouais, il y a Red Carrier, tout ça aussi en ce moment-là, qui sont sortis dans ce genre de trucs. Et j'arrive. Red Carrier.
Souvent Mouse Party, tout ça.
C'est chouette, en fait, mais je sais pas, soit j'arrive pas à l'écouter au bon moment, dans le bon mood, ou j'en ai pas assez écouté pour l'apprécier, mais je vais l'y mettre avec Adieun Pavarotti. Merci, Simon.
Et je te remercie.
Ouais, j'avoue, le référentiel Cloud Rap, maintenant que tu l'as dit, ça tourne. Ouais. Un petit peu, il y a ce petit truc un peu vaporeux, quoi.
Ouais, mais
c'est pas ça qui vient en premier.
Là, ça fait pas tant rap, hein, ce morceau. Enfin, ce morceau-là, en tout cas.
Ce morceau est variette.
Ouais, mais le cloud rap fait quand même très variette, globalement. Bah, c'est ce que je reproche. Vas-y, refais le truc avec ta voix, là.
Il y a quand même ce truc vaporeux, je trouve. Quand même,
c'est le côté vaporeux plutôt de la pop, quoi. Enfin, du côté pop variété, quoi.
Moi, ça me fait beaucoup penser à de l'emo, quoi. C'est très emo 2000. Enfin, c'est tout de suite vaporeux avec un groupe rock derrière, quoi.
Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est du rap rock, quoi. Ouais. Enfin, ou du rock rap, comme vous voulez, mais.
C'est les tatouages sur la tête, c'est ça en fait.
Bah, c'est ça.
Oui, il est très. Ouais,
c'est
ça.
Mais c'est ça. Et je vous conseille vraiment de lire l'interview parce qu'il parle de ça justement. Il a toujours été identifié comme rappeur.
Oui, alors que.
Et là, il a un projet qui devient vraiment. Il parle plus de chansons. Je pense qu'on est vraiment dans ce registre-là. En tout cas, moi, ce morceau, je l'écoute vraiment comme un petit morceau pop. Voyez un peu le morceau se termine. Tu dis, oh putain, il est déjà fini, j'ai envie de le réécouter. Un truc hyper entêtant. Qui a du mal à te lâcher, quoi.
Un petit bonbon, comme dirait
un
Simon.
Petit bonbon,
un petit bonbon
au sucre.
Mais très 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 bon morceau, ça me donne très envie en fait d'écouter le projet en entier.
Il a sorti un autre single aussi qui s'appelle House et qui est aussi issu du futur album qui va sortir.
Et du coup, qui est House comme un album de Drake ou
aucunement. Aucunement. Okay, non, c'est une référence à sa maison d'enfance, mais il explique tout ça dans l'interview, donc je vais arrêter de citer cette interview.
Oui, à un moment, on va se dire que t'as pompé tout là-dessus, mais.
C'est intéressant quand même, ce côté les rappeurs qui se mettent à faire du rock.
C'est peut-être le retour du rock, du coup, finalement.
Ou l'inverse, les rockers qui font du rap.
C'est ça, peut-être qu'en fait, c'est un cercle, quoi.
Est-ce que la musique ne serait pas un cercle sans fin?
Peut-être. Mais bon. Enfin, et peut-être qu'on va revoir des guitares sur scène aussi, quoi.
Il y a de plus en plus de rappeurs qui viennent avec leur gratte sur scène.
Bien sûr.
Bonne ou mauvaise chose d'ailleurs. Mais...
ou les batteries aussi, les batteries qui reviennent.
Très longtemps, mais c'est fait vraiment plaisir.
On pense à l'homme pâle, évidemment. Non, pas forcément. Pas que.
T'as plein de choses. Hein. T'as Youvdi dont on parlait.
Aloïs Sauvage depuis quelques temps déjà aussi. Swing en Belgique. D'ailleurs, ça me lance super bien pour la suite.
Swing issu de l'or du commun, n'est-ce pas?
Oui, issu de l'or du commun.
Okay. Mais non, mais du coup, c'était très, très cool. Non, mais je repense à. C'était un peu comme Steven où je l'ai vu tourner. Ça fait longtemps que je vois sa tête.
Fait longtemps que tu me vois tourner et que tu vois ma tête.
Non, à Zedune. Et non, c'est très, très content du coup de l'avoir découvert et écouté.
Mais ça m'a fait vraiment ça parce qu'en effet, je crois qu'il a commencé en 2018-2019 et il était vraiment identifié rap et je l'ai écouté sans trop écouter. Et là, je crois que c'est encore l'algorithme Spotify qui m'a remis le morceau. Comme les trois quarts des choses.
Il connaît bien.
Il me connaît très très bien. Et je me suis surpris à la chantonner, etc. Et c'est rentré dans ma playlist et depuis, c'est un enfer.
À noter aussi quand même que ça a fait un très. 2018, justement, ça a fait un très très bon démarrage dans beaucoup de festivals, de salles. Et ça a été un peu le truc hype qui était en mode dans un an on n'entend plus parler et c'était pas vrai. Du coup, on en entend encore parler, ça reste. Donc c'est cool.
Parce que moi je l'ai vu à ce moment-là et c'était déjà très bien, justement. Enfin, ça, pour tout ce que justement on a pu voir ou qu'on peut voir, ça fait partie, moi à ce moment-là, je me disais, attends, ça c'est vraiment cool, on va voir ce que ça donne. Et c'est encore là, donc ça veut dire que.
Il se réinvente, quoi.
Ouais, complètement, c'est ça. De toute façon, c'est le but des artistes, je pense.
C'est ça, ouais.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il en parle justement dans cette fameuse interview. Que de l'évolution de son public.
Est-ce que tu veux pas nous lire l'interview et puis on en reparle.
De l'évolution de son public qui change aussi en fonction du style de ses projets. Merci pour votre écoute attentive.
Je l'ai touché,
l'anti-accord absolu. Vous entendez ? Absolu ! La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe ?
C'est l'heure de passer la parole au merveilleux, fabuleux Léo.
Waouh ! Waouh ! Merci.
L'annonce.
Du coup, moi je vais vous présenter Pete. Je disais juste avant. Petit rappel swing, parce que du coup, sur la lune d'avant, nanani, ils ont fait un morceau ensemble. Bref, j'en parle plus tard. Alors, Pierre Mignon, de son vrai nom, rappeur à plein temps après une carrière de pizzaïolo, est basé à Bruxelles, comme la plupart de ce qui se fait de mieux en rap francophone actuellement, à vie très personnelle, et surtout après les trois projets qu'on vient d'entendre. Il officie toujours dans le 7-7 et ça fait maintenant quelques années qu'il a lancé son solo. Il avait d'ailleurs sorti son premier album en 2021, Mignon, que j'avais saigné fort en 2022 déjà, année de ma découverte de Pete. D'ailleurs, découvert complètement par hasard à Nantes, j'étais en train de me faire tatouer par un autre Pierre Pou. Esso à lui, à Enfant Sauvage et à Bengale, petit personnage connu localement en Mayenne pour les visuels du feu, festival Terra Incognita. Et du coup, l'album Mignon était en boucle pendant la session et j'arrêtais pas de shazamer tous les sons. Et pendant les deux mois qu'on suivit, j'ai vraiment beaucoup écouté. Mais là, il revient avec Todo Bien, album multifacette. Il est pas là pour faire du rap, mais du karaté. Il nous présente toutes ses influences, comme ses contemporains, Jean Jass, Roméo Elvis, les deux sont présents sur l'album, ou d'autres, comme Masayoshi Takanaka, guitariste funk japonais des 70s, où Pete a clairement pompé, on va dire rendu hommage à la pochette de son All of Me, sur Todo Bien. Il y a vraiment un autre truc dans la musique de Pete qui me parle, que ce soit les paroles ou les instrus, qui vont d'un boom bap assez jazzy, facile qu'on entend beaucoup en ce moment, à une trap turn up aussi facile qu'on entend beaucoup en ce moment, mais il fait très bien les deux. C'est justement un truc faussement simple, terre à terre, mais avec plein de second degré et toujours un message d'amour. Finalement, on finit sur deux chroniques où il y a du message d'amour avec Zed Youn, qu'il avait déjà dans l'album d'avant, mais là qu'il a vraiment poussé à fond. Et aussi sûrement parce que bah, on est de la même génération, voire même du même âge, et qu'on vient plus ou moins du même milieu social avec un référentiel commun, que ce soit culturel ou social. Et pour le
pizzaïolo, toi ?
Moi, j'ai pas été pizzaïolo, mais tu vois, enfin c'est le truc, je pense, parents cadre moyen, tout ça quoi. Vraiment.
Une vie moyenne.
Ouais. Bah non, mais c'est, toi vraiment. C'est des envies simples, des parents simples, mais finalement ce qu'on demande quoi. Et
l'amour,
vraiment
l'amour simple
ouais. Vraiment toi, il y a vraiment ce truc, il y a vraiment ce truc là dans ce qu'il raconte quoi, vraiment genre la simplicité des choses, etc. quoi. Je trouve ça très chouette, et bah du coup ça me parle à moi, homme blanc cadre moyen quoi,
cheveux bleus
c'est vrai. Du coup, pour le son d'aujourd'hui, j'ai choisi son gros banger de Todo Bien, Si j'étais riche. Du coup, d'habitude, Pierre a les pieds sur terre, mais des fois, c'est bien de prendre un peu de hauteur et de rêver. Et qui a jamais de rêver faire le tour du monde avec sa chérie et de construire des petites maisons dans les prairies, flemmard de qualité style.
Ouais.
Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah
Ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche, je lève un verre à ma santé, à la tienne aussi. Si tu veux mon assiette, c'est la tienne aussi. Quand j'ai été payé, je dégaine la Fortis. Comme si j'étais 50, comme si j'étais Curtis. Le resto c'est pour moi, les pourboires aussi. Je te connais pas vraiment, je paye pour toi aussi. J'ai pas de permis, je loue une A6. Solde 0,36 avant le 26. Avant tout le partage, y'a des valeurs auxquelles je me rattache. Depuis l'époque de Jackass, depuis l'époque où on se prêtait nos atlas. Il prêtait pas son atlas, donc il restait seul au fond de la classe. Faut pas se voiler la face, tu finiras bien par céder ta place. Ah si j'étais riche, si j'étais riche. Ah si j'étais riche. Si j'étais. Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche, 104 BPM comme unité Don Bosco. J'achète une île pour moi et mes frères si je gagne au loto. À quoi ça sert de garder tout pour soi? Mentalité grand frère, grand François. On n'aime pas les radins, on traîne pas avec eux. Tous monnaie mais le respect s'achète pas. Dis-moi tu vas faire quoi? J'aurai pas de jardin, j'aurai une forêt. Et tous les matins j'irai dans le lac. Si je te vois jeter ton mégot par terre avec mes claquettes, je te mets des claques. J'aurai pas de voisin, j'aurai que des frérots.
J'aurai pas de voisin, j'aurai que des frérots.
Mais là je vais taffer, là je suis dans le métro. Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche, ah si j'étais riche. Si j'étais riche. Ah si j'étais riche.
Et voilà, c'était Pete avec Si j'étais riche, un peu mon mood actuel, j'avoue. Si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais? Et ben, je pense plus ou moins la même chose. Et du coup, la chronique à l'instant est clairement sponsorisée par les deux derniers albums. Vous pourrez retrouver quelques morceaux, quelques paroles insérées par-ci par-là. Comme ça, ça vous permet d'aller fouiller. Merci. Qu'en avez-vous pensé?
C'est du génie ce que tu viens de faire.
Mais ouais, c'était vraiment très cool. Enfin, moi,
t'étais pas.
Non, ouais, j'étais déjà convaincu, moi.
Oui.
Ouais, j'étais déjà tombé dessus et pareil, je l'ai saigné. Mais pour le coup, j'avais pas écouté son premier album. Enfin, Pete, j'avais écouté beaucoup avec le 7-7. On retrouve un petit peu quand même le 7-7, la logique, il est dedans. Mais il y a moins le côté speedo de Fais les flingues qui est son compère, son compère.
Fais les flingues et Morgan.
Oui. Et mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis bon, y a un petit featuring avec Jean Jazz, du coup tout de suite ça me touche au cœur, quoi.
Le maître étalon. Ouais. Jazz, quoi. Carrément.
Ah, y a pas de feat avec Kaba quand même, donc bon.
Ah, c'est demi maître étalon.
Okay. Mais oui, puis ça m'a aussi beaucoup fait penser. Mais alors, c'est aussi dans la voix à Stav, un artiste angevin qui en fait pareil, faisait du rap avant et s'est mis un peu à faire de la pop, de la chanson, un peu de lover qui reste un peu en tête avec des petits refrains comme ça et tout, et c'est vraiment cool. Et du coup Pete, gros banger du moment, et j'aimerais beaucoup le voir en concert.
C'est un jour.
Maybe.
Merci Léo pour cette découverte.
Avec plaisir.
Con, grosse caisse claire.
Il nous reste encore quelques minutes et on va finir par le désormais traditionnel, parce que je vous rappelle qu'on vit ensemble la deuxième édition de Catherine, donc on peut parler de tradition désormais. Le merveilleux débat de merde.
Oui, le DDM.
Que tout le monde attend.
DDM.
Que tout le monde attend. Et alors je vous ai pas. Voilà, j'ai choisi le débat.
Tout à fait.
Vous n'êtes pas forcément
on n'est pas au courant.
Mais j'ai envie aujourd'hui qu'on parle d'un sujet d'actualité. Et vraiment, j'ai besoin d'avoir vos avis sur le meilleur morceau de Manif. selon vous?
On lâche rien.
On va essayer de trater.
On lâche rien, HK et Saltamanque.
Voilà, c'était sûr que ça allait tomber. Bah, moi, oui.
Merci de nous avoir écoutés.
Moi, c'est fuck le 17, blocked, enfin 13 blocs, pomme direct.
Voir... Attends, c'est un morceau que t'entends en manif ou c'est un morceau que tu te dis qu'il faudrait le mettre en manif?
Alors, c'est un morceau que j'ai entendu aujourd'hui en manif et que j'étais très content d'entendre en manif. Parce que ça mérite d'être en manif. Et tu peux même mettre le remix par Casual Banger. Casual Gabber, pardon.
Là, c'est, là j'ai pas. Mais, alors, mais pour le coup, on lâche rien d'HK et Saltamanque. Ça fait quand même longtemps. Alors, pour le coup, pour les musiques en manif, faudrait penser à renouveler la playlist.
Bah justement.
Parce que ça marche sur les morceaux que les gens connaissent. Hein. En vrai.
Voilà, merci. Merci à la régie d'appuyer
ouais.
nos propos.
Ouais, j'avoue. Casual Gabber en fond, là, tu peux le laisser même en tous les gènes.
Est-ce qu'il y a quoi en manif? Il y a Antisocial.
Il y a les vues assassines, là, quand même, sur les retraites
ouais,
aussi.
Tout à fait. Ouais. Qui est pas mal revenu, là, dans les.
Ah ouais.
Clairement. Bah, là, en ce moment, c'est le morceau, là.
Ah, ça doit être ça que j'ai entendu, mais je sais pas ce que c'est. J'étais
vues
là.
Vues assassines, c'est vrai que, bah, du coup, je pense que ça crée aussi la hype actuelle aussi.
Des vues assassines,
oui. Complètement.
Ça joue là-dessus, ouais. Bah, tant mieux.
Oui, tant mieux, parce que c'est un très, 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 très chouette groupe. À voir en live, c'est vraiment. Très gros.
Ce qui est terrible pour eux, c'est qu'il n'y a pas de déclaration SACEM finalement, donc ils sont énormément écoutés sans en toucher les bénéfices.
Non, mais bon, après, il y aura des répercussions.
Des répercussions clairement. Marketing
clairement,
marketing,
clairement.
Oui. HK et la Saltimbanque à Bercy le mois prochain.
Avec les buves assassines et clairement, on peut faire un plateau manif.
Un plateau retraite, ouais.
Un plateau retraite.
Un plateau retraite.
Plateau EHPAD.
Non, mais ouais, dur choix les manifs en même temps, mais c'est vrai que moi, HK, là, JPP, quoi.
Ah ouais.
Et c'était quoi les slogans La Manif pour tous et la musique? Parce que là, j'aurais bien aimé voir les vues assassines avec J'aime la bite, mais pas la tienne.
Ouais, je crois pas que le public soit adapté, mais en même temps, pas plus mal.
Est-ce qu'il y a des musiques de manif de droite et des musiques de manif de gauche?
Oh.
Parce qu'on lâche rien. Ça pourrait marcher pour.
Personnellement, j'ai jamais fait de manif de droite.
Ça, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire non plus.
On a une méconnaissance
Bonne
sur
réponse.
Le sujet.
Ouais, méconnaissance sur le sujet, clairement. Et abandon du sujet.
Mais bref, en vrai, juste pour le fun, une fois.
J'aurais trop peur d'être pris en photo.
Ouais, pareil. Même pour le fun, non. Franchement, être avec Jean Eudes à côté avec son petit polo là. Désolé quoi. Non.
Désolé.
Moi j'ai pas envie d'être à côté de lui en manifestation. On n'est pas d'accord sur le papier. J'ai pas envie d'être pas d'accord avec lui.
Sur
en
le
vrai. Ouais c'est ça voilà.
Et puis sur le choix musical de la sono du coup.
En plus quoi franchement.
Ça va faire une mauvaise soirée où tout le monde se bat pour avoir la place du DJ. Alors ils vont tous vouloir changer la musique.
Non mais c'est ça franchement t'as envie d'entendre Sardou en manif? Non. Non non non. Merci au revoir.
Allez Connemara en manif. Ça marcherait bien.
Bah, non, ça marche déjà pas. Ça marche déjà pas à 6h du mat, s'il vous plaît, non.
Bon, contre toute attente, c'était vraiment un super débat de merde, les copains. Mais...
Oui, c'était bien.
Oh, tu savais que ça pouvait clairement être. Il y a une playlist manif, musique manif CGT sur Spotify. Ah, quand même.
Oh. Et alors, c'est quoi les premiers titres?
Bah, il y a HK, il y a les vues assassines, il y a Perestroska.
Est-ce que c'est pas HK qui a créé la playlist?
Non. Ah, il y a les Salles Majesté, il y a Trust, il y a les Berus.
Ouais. Oui, bon,
évidemment. Kenny Arcana.
Ah oui, c'est vrai. Kenny Arcana.
C'est un beau.
Ah, ça, c'est pas mal. Ça.
Yannick Noah.
Ah.
Mais tu sais, les Lyonnes.
Les Fatal Picard. Troisième
case,
il y a 16.
Les Fatal Picard, c'est la chanson sur les profs.
Ouais.
Allez, Damien, c'est vrai que Damien 16. Mais alors, moi, genre, je vous conseille, sinon en manif, je sais que, en tout cas, les manifs du coin que je fais, c'est le syndicat solidaire qui ont une bonne playlist.
Ah.
Ouais, les solidaires, une bonne playlist. Mieux que la CGT.
Bah, en tout cas, les jeunes aujourd'hui avaient une très bonne playlist et je suis très content d'avoir entendu 13 blocs. Fuck le 17. Merci, au revoir.
Ça remet les choses dans l'axe. Merci.
Ça remet l'église au milieu du village.
Est-ce que vous condamnez les violences policières? Non.
Merci à tous. Merci beaucoup pour cette belle émission. Alors je vous rappelle, du coup, on a présenté 4 artistes. Donc il y a Sans Nom qui nous a été présenté par Steven, Inigo Montoya par Corentin, Zadioun Pavarotti par moi-même, Simon et Pete par Léo. Voilà, on vous prépare une petite playlist pour que vous puissiez écouter ça au fur et à mesure. Merci pour votre écoute et puis on se retrouve bientôt pour le troisième épisode du désormais traditionnel au Catering.
Si vous le voulez bien.
Et
si
suivez-nous sur Instagram.
On est déjà 8.
Ah, ce qui est sûr, c'est que le Catering, c'est une restauration tout à fait particulière.
Grosse casse claire.
Ah, crise, belle crise, bravo.
C'est pas du rock, ça. C'est pas ça, le rock.
Yaka Nakamura.
C'est ça, le rock.
Con.
C'était donc ça, tout ce tintouin.
Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam.